Radio Kapi.
À la une, ses réactions à la nomination de Mabiku Totokani comme secrétaire exécutif national de la CENI. La CENI devrait se rassurer que les différents candidats ont de l'expertise, mais pas des accointances avérées avec les parties prenantes. Réaction de Dieudonné Mirimo, ancien rapporteur de la commission électorale. Plusieurs faits historiques ne rassurent guère les parties prenantes aux élections de 2023, pense Alain Lomanja, analyste des questions électorales. Il faut plutôt juger Mabiku Totokani par les actes et non sur des procès d'intention, estime de son côté Jérôme Bonso, président de la Linélite. Verdict dans le procès de Rossi Mukendi. Sa famille ira en appel contre les dommages et intérêts. Pour elle, la modique somme de 105 000 dollars comme dommage ne représente pas grand-chose pour subvenir aux besoins de la famille, a dit son avocat, maître Peter Ngomo. Vous l'entendrez. Et puis, un rapport accablant sur les institutions politiques de la RDC vient d'être publié par l'Observatoire de la dépense publique, ODEP. Dans ce document, l'ODEP révèle des pratiques qui impactent négativement les finances du pays. Pour en parler, nous recevons le professeur Florimond Mouteba, président de l'ODEP. D'abord cette nouvelle, Marie-Hélène Matebo a été nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès des États-Unis d'Amérique par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'ordonnance de nomination a été lue hier à la télévision nationale, la RTNC. Madame, messieurs, bonjour. Les réactions continuent à être enregistrées tant dans la classe politique que la société civile depuis la nomination de Mabiku Totokani Toto, ancien conseiller du président Tshisekedi, comme secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante. La CENI devrait se rassurer que les différents candidats ont de l'expertise, mais non des accointances avérées avec les parties prenantes. Cette réaction est de Dieudonné Mirimo, expert électoral et également ancien rapporteur de la Commission électorale indépendante, CEI. Il a dit hier au cours de l'émission de Log Entre Congolais qui portait sur ce sujet. On l'écoute.
À partir du moment que la CENI a rendu public l'appel à candidature le 14 décembre 2021, la CENI est régie par la loi, aussi les règlements intérieurs, mais également les règlements administratifs et financiers. Tous ces textes-là sont bons et tout est clair dedans. Mais à partir du moment donc que l'appel a été lancé, il ne restait qu'une seule chose, c'est de pouvoir mettre en application ces textes-là et se rassurer que les différents candidats, non seulement ils ont l'expertise requise, mais qui n'ont pas des accointances avérées avec les parties prenantes. Et c'est très important, la CENI doit rassurer toutes les parties prenantes. Or, quand nous suivons les réactions de la Mouka, nous suivons les rapporteurs du PPRD qui fait partie du FCC. Je pense, si je ne me trompe pas, ce sont les deux-là qui constituent l'opposition auquel la loi fait allusion dans la loi portant fonctionnement de la CENI. Si déjà cela, il crie par rapport à ce qui s'est passé, donc il y a véritablement un problème et nous devrions vraiment avoir un regard là-dessus parce que nous tenons, et je pense que c'est ça le vœu du peuple congolais, d'avoir des élections apaisées, libres et transparentes en 2020.
Pour sa part, Alain Lomanja, analyste des questions électorales, affirme que plusieurs faits historiques ne sont pas de nature à rassurer toutes les parties prenantes aux élections de 2023. Il cite notamment la nomination des membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la CENI. Alain Lomanja participait aussi à l'émission de Log Entre Congolais d'hier. On l'écoute.
Que personnellement, le débat ne porte pas tellement sur la personne de Monsieur Mabika, mais c'est sur le rôle qu'il est appelé à jouer au sein de la CENI. Le 10 janvier 2019, j'avais été invité par RFI comme expert électoral indépendant pour discuter des résultats annoncés par la CENI. Et à ce débat-là, Monsieur Mabika avait aussi été invité comme conseiller du président de la République, alors président de l'UDPS, et il était en train de parler de la compilation des résultats du parti présidentiel à la première personne du pluriel pendant tous les débats. Donc c'est assez récent comme événement et qui montre qu'il y a quand même une appartenance claire à un parti politique, ce qui n'est pas de nature à rassurer les autres.
et Jérôme Bonso, président de la Ligue nationale des élections libres et transparentes, l'INELIT, et coordonnateur de la plateforme Agir pour des élections transparentes et apaisées à État, lui, pense qu'on devrait plutôt juger le secrétaire exécutif national de la CENI par les actes et non sur des procès d'intention. C'est un dossier signé Kéline Kouté. Je vous le disais en titre, la famille de Rossi Mukendi ira en appel contre les dommages et intérêts infligés aux condamnés ainsi qu'à la RDC, information livrée à Radio Capi par l'avocat de la famille. Selon Maître Peter Ngomo, la modique somme de 105 000 dollars ne représente pas grand-chose pour subvenir aux besoins de la famille de son client. Rossi Mukendi venait de terminer ses études universitaires et il avait commencé une belle carrière qui lui permettait de prendre convenablement en charge sa famille. La somme accordée ne représente vraiment pas grand-chose, encore qu'elle ne sera pas payée entièrement comme telle, ajoute Maître Peter Ngomo. Il est joint par Blaise Shindani Kambala.
Par rapport à la peine prononcée, nous sommes satisfaits. Mais par rapport au dommage d'intérêt, là, on n'est pas satisfaits. Pourquoi? Parce que vous venez très bien que Rossi est un jeune garçon. À peine il venait de finir ses études, il a commencé une bonne carrière, mais fauché à cet âge-là, et pour qu'on lui accorde cette modique somme de 105 000 dollars, c'est vraiment insignifiant. C'est pour cela que nous sommes résolus quand même de relever après par rapport à ce dossier-là.
Ah, donc vous êtes parti en appel par rapport aux dommages et intérêts.
Oui.
Mais vous n'avez pas encore introduit, hein?
Non, mais pas, on est encore dans les délais, il y a encore 5 jours.
Ok, mais en général, ça va, hein, pour les verdicts.
Pour les verdicts, oui, mais c'est les verdicts aussi exemplaires, hein. Si c'est pour attirer un peu l'attention des policiers qui se croient être au-dessus de la loi, oui, effectivement, oui.
Même les 105 000 là, on dit que l'État pour payer, c'est tout un problème.
Non, mais ça aussi, c'est notre problème. Parce que même si vous devez faire des démarches, croyez-le que si on vous payera, c'est peut-être les 30, 40 000 dollars. La différence, vous devez laisser à travers tous les bureaux où le sera passé. Donc, c'est insignifiant.
Pour rappel, le verdict dans le procès du meurtre de Rossi Mukendi a été rendu lundi devant la cour militaire de Kinshasa Matete en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo, prison à perpétuité et destitution au sein de la police. C'est la plus forte sanction pénale infligée par la cour à l'encontre des policiers Karine Lokeso, ex-commissaire supérieur, et Tokis Kumbo, ex-brigadier. Franco Bivoala également a été condamné par contumace. En matière civile, ils sont tous condamnés en solidarité avec la République à indemniser la famille biologique de Rossi Mukendi et le mouvement citoyen Debout Congo de 105 000 dollars. Rappelons que c'est au cours d'une manifestation pacifique organisée par le comité laïque de coordination le 25 février 2018 que Rossi Mukendi, activiste du mouvement citoyen Debout Congo, a été fauché par balle réelle devant la paroisse Saint-Benoît de Lemba à Kinshasa. Justice encore, reprise ce mercredi des audiences publiques au procès du double assassinat de Floribert Chebea et Fidel Bazana devant la haute cour militaire de Kinshasa Gombe en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. Interrompue quelques jours avant les festivités de fin d'année, la haute cour va poursuivre son instruction là où elle s'est arrêtée avec la confrontation des prévenus et renseignants aux dépositions du major Paul Mouilamboué. Selon les parties, ça devrait être aussi l'entame des plaidoiries qui avaient déjà été annoncé par la cour. Nord Kivu, le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, CEPADO, salue l'implantation à Beni du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, DDRCS. Cependant, estime son coordonnateur, plusieurs défis sont à relever pour la réussite de ce programme. Pour mettre aux marques à Vota, il faudra notamment des moyens nécessaires pour la sensibilisation des groupes armés et des communautés afin qu'ils adhèrent à ce processus. Mettre aux marques à Vota s'en explique au micro d'André Kitenge.
Le premier défi, c'est le contexte lui-même. Nous pensons que le PDDRCS ne peut réussir que là où l'armée est efficace dans ses opérations de traque contre les groupes armés et le mouvement terroriste. L'adhésion à ce programme dépend de la puissance de feu contre les réfractaires à ce processus ou les autres groupes terroristes qui équiment la région. Le deuxième défi, ce sont les moyens mis à place parce que si la République ne consacre pas d'énormes moyens pour la sensibilisation des communautés ou des groupes armés et pour la la prise en charge des rendus et leur réinsertion réussie, le programme pourra connaître un échec. Vous savez que depuis un certain temps, nous avons des combattants qui sont cantonnés à Kalunguta, d'autres traînent encore à Mubambiro et même dans les Sud Lubero. Enfin, les complicités locales et les manipulations politiciennes. Il faut que nous puissions considérer cela comme un défi aux côtés de la mobilisation de moyens par les partenaires techniques et financiers.
Province du Tanganyika, sitôt la première journée décrétée ville morte par la société civile et la FEC, sitôt la mesure du gouvernement provincial tombe pour suspendre la taxe de péage route à Kongolo, voilà la décision qu'annoncent les autorités territoriales à l'issue de la réunion de sécurité élargie à la société civile et la FEC Kongolo, réunion tenue le lundi. La mesure du gouvernement provincial du Tanganyika intervient après l'appel de la société civile et de la FEC à une ville morte pour refuser le paiement de la taxe de péage route. Le point de la situation avec François-Xavier Mibé.
Pharmacie, boutique, magasin, dépôt, marchés locaux, toutes les activités économiques sont restées lundi quasiment paralysées à Kongolo. L'expression de toute la communauté active qui a suivi les mots d'ordre à la fois de la société civile et de la FEC locale. Ces deux structures protestent contre la reprise de la taxe de péage route par la Direction Générale des Recettes du Tanganyika d'Ertang en territoire de Kongolo. Pour les deux structures, la dégradation des routes reste prononcée malgré les paiements des taxes. Les coordonnateurs de la société civile, Pepe Mbuyu Somwe.
L'argent a été perçu pendant 3 ans. Aucun centimètre de la route n'a été réhabilité.
Par ailleurs, la FEC s'en vante en guerre contre le service de l'assiette pour réclamer que tout paiement des taxes de l'État puisse passer par un guichet officiel que par des voies contournées transitant par des services de transfert de monnaie. Le vice-président de la FEC Kongolo pense à restreindre le mouvement des opérateurs économiques vers la Dertang Kongolo. De toutes ces plaintes, l'administrateur de territoire en charge de l'administration, Joseph Kiteba, n'a que ces mots.
La taxe de péage est suspendue momentanément jusqu'à nouvel ordre.
Kalemi, François Djabemibe, Radio Kapi.
Et puis, le syndicat Force syndicale nationale Focinat salue la décision du ministre de l'EPST de supprimer la perception de l'impôt sur le revenu IPR sur le salaire des enseignants. Ce syndicat l'a fait savoir mardi à Kinshasa dans une déclaration à Radio Kapi. Son rapporteur Méliès Ndelo affirme que cette décision va beaucoup soulager les enseignants. Le rapporteur de Focinat a été joint par Alain Rongmouching.
Partant du principe droit et devoir, il est de droit pour l'État congolais d'appliquer l'IPR car l'État ne vit que de taxes, impôts et dévances près. Mais nous devons aussi nous poser la question, est-ce que l'État, avant d'appliquer ce droit, a-t-il accompli ses devoirs à l'endroit de nos enseignants? Je vous répondrai non. Alors, dans la mesure où l'État congolais ne sait pas appliquer ses devoirs, mais pourquoi réclamer le droit? La retenue de l'IPR dans le salaire de chaque enseignant avait des effets néfastes dans le quotidien des enseignants. Voilà pourquoi, au nom de la Force syndicale nationale, nous tenons vivement à remercier et à saluer la bravoure du ministre de l'EPST, en l'occurrence le professeur Tony Mwaba Kazadi, pour cette initiative de stopper effectivement la retenue au salaire des enseignants.
Dans l'actualité, sachez aussi que le révérend abbé Richard Kazadi Kamba est le nouvel évêque du diocèse de Kolwezi dans le Lualaba. Dans la lettre de sa nomination de mardi 11 janvier, la Commission épiscopale nationale du Congo, CENCO, fait savoir que le pape a nommé l'abbé Richard en remplacement de Mgr Nestor Ngoy Katawa, qui avait démissionné de ce poste puisqu'ayant atteint l'âge de la retraite. Jusqu'à sa nomination, l'abbé Richard Kazadi était secrétaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de la province ecclésiastique de Lubumbashi. Sa biographie nous est présentée ici par Fulbert Balolagué.
Né en 1964 à Lubumbashi, il est ordonné prêtre le 19 septembre 1992 à Kinshasa. Il obtint son certificat d'études primaires en 1976 et son diplôme d'état en 1984. Après une année au propédétique, il fit ses études de philosophie au grand séminaire interdiocésain Saint-Paul de Lubumbashi. L'abbé Richard Kazadi est connu dans le monde scientifique. Il détient 2 doctorats défendus en théologie fondamentale en 2003 et philosophie herméneutique en 2006. Bien avant ces dates, il avait obtenu une licence en théologie à l'actuelle Université catholique du Congo, une autre en philosophie de l'Institut universitaire des sciences sociales, économiques, philosophiques et lettres de Kinshasa. Détenteur d'un diplôme d'études de DEA en théologie, il est aussi diplômé en journalisme. Au sein de l'Église catholique, il a occupé plusieurs responsabilités, vicaire, vice-vicaire, notaire du tribunal ecclésiastique, professeur de théologie, éthique sociale chrétienne, aumônier, secrétaire académique, vice-recteur du grand séminaire et autres. prêtre. En 2021, il a été tour à tour membre du conseil diocésain de la pastorale, membre du conseil théologique diocésain et membre chargé des questions théologiques à la Radio Maria de Lubumbashi.
Par ailleurs, signalons qu'après des obsèques commencées depuis lundi, c'est ce mercredi que sera inhumé Mgr Tarsis Tshibangu Tshishiku, président du conseil d'administration des universités de la RDC et ancien évêque du diocèse de Mbujimayi. Il est aussi admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon. Cette nomination a été lue hier à la RTNC.
Actualité Afrique Monde.
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est penché hier sur la situation au Mali et lors de la réunion, les membres du Conseil onusien se sont présentés divisés sur la question. La France, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont rejeté une transition de 5 ans au Mali telle que voulue par la junte malienne et soutenu les sanctions annoncées par la CEDEAO. Au Kenya, l'autorité de l'aviation civile a annoncé hier suspendre tous les vols des passagers en provenance de Dubaï, une mesure de représailles alors que depuis fin décembre, les Émirats arabes unis ont provisoirement mis fin aux vols passagers en provenance du Kenya sur fond des soupçons de trafic des faux tests Covid.
L'invité.
Comme dit dans le sommaire, l'Observatoire de la dépense publique ODEP vient de publier son rapport sur la gestion des finances publiques, un rapport accablant pour les institutions politiques de la RDC. Dans ce document, l'ODEP révèle des pratiques entretenues par ces institutions et qui impactent négativement les finances du pays. Le professeur Florimond Mouteba, président de l'ODEP, s'entretient à ce sujet avec Guy Matetsongo.
Bonjour professeur Florimond Mouteba.
Oui, bonjour.
Dans ce rapport, vous faites beaucoup d'affirmations, entre autres, le contexte d'exécution de la loi des finances 2021 a été marqué par l'aggravation des pratiques de corruption. Le Parlement, temple de la démocratie, a été transformé en temple de corruption. L'inspection générale des finances s'est illustrée par la banalisation des cas de violation de la loi relative aux finances publiques. Professeur, qu'est-ce qui vous amène à dire tout cela?
Non, la réalité, tout simplement. D'abord, concernant la corruption au niveau du Parlement, ça c'est quelque chose qui est de notoriété publique. On a vu comment la majorité est passée du FCC à l'Union sacrée, avec les cadeaux en type, en argent, et ça a été dénoncé d'ailleurs par les parlementaires eux-mêmes. Ce qui fragilise notre démocratie complètement, parce que vous savez que l'Assemblée nationale a aussi le devoir de faire le contrôle parlementaire. Si ce contrôle, dans les conditions actuelles d'une Assemblée mise sous ordre par la corruption, il est impossible de faire un contrôle parlementaire sérieux. Vous avez vu avec la RAM, le ministre Kibasa a été, bon, l'a exonéré, comme ça, alors qu'il devait répondre. Donc, il y a ça, il y a aussi les conditions dans lesquelles certains marchés ont été donnés, par exemple, les 138 millions de dollars qui devaient couvrir les projets Chile-Gelou. L'OVD a attribué ces marchés-là, de gré à gré, à l'entreprise qui s'appelle Grec, une entreprise chinoise, sans vraiment des raisons sérieuses telles que reprises dans la loi sur le marché public. Et il y a aussi un autre projet, le projet Kinshasa Zéro Trou. 32 millions de dollars, l'OVD a encore donné de gré à gré ce marché-là à 7 ou 8 entreprises de la même manière. Donc, vous comprenez que dans ces conditions-là, lorsqu'il y a de gré à gré, et ce genre-là, sans raison, la corruption est derrière.
Vous évoquez beaucoup de chiffres, notamment la présidence de la République a augmenté le nombre de son personnel de 450 en 2018 à 1018 en 2021. Les bureaux de l'Assemblée nationale rémunèrent 2556 membres de cabinet, hormis les 500 députés. Les bureaux du Sénat rémunèrent 880 membres de cabinet, hormis les 109 sénateurs. Quelle méthode avez-vous utilisée pour accéder à toutes ces informations professionnelles?
La loi des finances. C'est dans la loi des finances votée sur l'année 2021, parce que nous avons entendu quelques protestations au niveau de la primature et tout ça.
Parce que vous évoquez les protestations, il y a des personnes qui remettent en cause certaines informations contenues dans ces rapports. C'est comme Maître Georges Kapiamba, président de l'ONG ACAJ, qui précise que la primature paye 200 agents affectés dans les cabinets du Premier ministre au lieu de plus de 600 agents, comme vous les soutenez dans ces rapports. La task force COVID-19 de la présidente de la République a aussi rejeté les allégations des malversations financières formulées contre elle par vous à travers ces rapports.
Non, concernant la task force Ce n'est pas nous, c'est la Cour des comptes qui a relevé. Nous, nous n'avons fait que relayer. Nous avons relayé ce que la Cour des comptes a affirmé. Vous comprenez? En ce qui concerne 606 personnes budgétisées en 2021 par eux-mêmes d'ailleurs, et alors, qu'est-ce qu'il faut? S'ils nous disent qu'ils n'utilisent que 203, alors les autres, les 400 autres, les crédits qui les sont donnés pour ces autres-là, ces crédits vont où? C'est ça la question que nous leur posons. Nous ne faisons pas d'affirmations en l'air. Nous utilisons la loi des finances. Et vous allez voir que dans la loi des finances 2022, on reprend les mêmes chiffres. Alors pourquoi on ne change pas?
Vous annoncez là que dans la loi des finances 2022, on reprend les mêmes chiffres. Nous savons que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas, que vous dénoncez la mauvaise gestion des finances publiques. Oui. Quelles recommandations pouvez-vous formuler à l'endroit du gouvernement et de toutes les institutions politiques afin que l'exécution des différents budgets de ces pays soit conforme à la loi des finances?
Bon, d'abord respecter la loi et la réhabilitation des contrôles, notamment en réhabilitant immédiatement la Cour des comptes, mais aussi tous les autres contrôles, l'autorité de régulation des marchés, la direction générale de contrôle des marchés publics, les inspections qu'il y a dans les différents ministères. Il faut réhabiliter tous ces instruments de contrôle. C'est ça qui va faire peur aux détourneurs et aux magouilleurs de tous bords.
Professeur Florimond Monteba, merci beaucoup.
Je vous remercie aussi.
Notre invité, le président de l'ODEP, répondait aux questions de Guy Maté Tsongo. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj. Merci de nous avoir suivis.